France Bleu Armorique, les experts.
On va parler d'une toute petite bestiole aujourd'hui, d'à peine 3 mm, un petit acarien que l'on rencontre dans les bois, les forêts, les hautes herbes. Il s'agit de la tique. Elle se nourrit du sang de ses proies, dont l'être humain. Elle peut causer des dégâts auprès de certaines espèces animales, car ces tiques sont vectrices de virus et de bactéries. Depuis quelques années, les médecins s'inquiètent de la recrudescence d'une maladie dont les tiques sont à l'origine. Il s'agit de la maladie de Lyme. Elle est due à la bactérie Borrelia, qui est transmise donc par les tiques. Dans quel milieu peut-on croiser les tiques? Les tiques que l'on trouve sur des chats, des chiens, du bétail ou des oiseaux sont-elles les mêmes que celles qui s'attaquent à l'homme? Toutes les piqûres de tiques sont-elles à risque? Comment s'effectue la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme? Quelles peuvent être les conséquences pour la personne infectée? Et comment se prémunir des attaques de tiques? Deux experts vont répondre à vos questions aujourd'hui. Il s'agit d'Alain Butet, qui est biologiste à l'université de Rennes 1, et de Pierre Tadevin, infectiologue au CHU de Rennes, Pontchaillou. Vous pouvez intervenir évidemment comme chaque jour en appelant le 02 99 67 35 35 et vous pouvez réagir aussi sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux.
Les experts, Bruno Gaulin.
Alain Butet, bonjour.
Bonjour.
Pierre Tadevin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent dans ce studio. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'Espace des Sciences, parce que vous participez, j'aurai l'occasion de le rappeler, mais vous participez ce soir à un café des sciences à 18h30 à l'Espace Magenta au Champ Libre à Rennes, intitulé les tiques attaquent. Pour démarrer cette émission, moi je voulais savoir ce qu'était une tique. Je disais, c'est une petite bête, 3 mm, c'est ça? C'est à peu près la taille?
Alors c'est effectivement un petit acarien, donc c'est pas un insecte, hein, c'est plus proche des araignées. La taille, elle varie en fonction du stade, puisque la tique présente 3 stades de développement. À partir d'un œuf, il va y avoir une larve qui va naître. Cette larve est très petite, moins d'un millimètre. La nymphe un petit peu plus grande, donc de l'ordre de 1 mm, 2 mm, et l'adulte qui fera 2-3 mm, effectivement.
Oui, ça dépend s'il est gorgé de sang ou pas aussi.
Alors après, s'il se gorge de sang, alors là, son poids est multiplié par 10 et sa taille devient très grosse, puisque le gorgement de la tique adulte fait à peu près qu'on atteint un animal qui fait presque 1 cm de long.
Quoi. Voilà, et là on les voit bien. C'est vrai que quand elles sont toutes petites et qu'on a une tique sur soi, on a parfois du mal à apercevoir l'animal. Hein.
Alors effectivement, généralement, souvent, on attrape des larves ou des nymphes et sont très petites. Et tant qu'elles ne sont pas gorgées, c'est effectivement difficile à voir sur la peau. C'est très petit, effectivement.
Alors, on a toujours eu ces animaux en Bretagne. Il y en a toujours eu de présentes, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui?
Alors, il y en a toujours eu. Hein. Je voulais d'abord préciser que on parle de la tique, mais il faudrait parler des tiques, parce qu'il y a pas mal d'espèces, puisqu'on a recensé dans le monde plus de 900 espèces de tiques. Et en Bretagne, il y a à peu près une quarantaine d'espèces. Mais elles ne concernent pas tout l'homme, parce que certaines sont spécifiques à certaines espèces animales, et d'autres sont généralistes, peuvent aller à la fois sur des animaux sauvages et l'homme. Et il y en a une qui nous concerne tout particulièrement, une espèce qu'on appelle Ixodes ricinus, qui est une tique généraliste, et qui, effectivement, est celle qui pose beaucoup de problèmes.
Quand vous dites généraliste, c'est qu'elle s'attaque à l'homme, mais pas seulement, quoi.
Pas seulement, elle passe de la faune sauvage. Elle peut aller sur la faune domestique et l'homme en même temps.
Voilà, donc les tiques que l'on voit, que l'on repère sur des chats ou des chiens parfois chez soi, peuvent aussi...
Alors, il y a les tiques spécifiques aux chats ou aux chiens, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais une tique généraliste peut effectivement aussi s'attaquer aux chats, aux chiens et à l'homme.
Oui, mais pas facile de les repérer. Vous, voilà. Vous pouvez, mais nous, on a peut-être un petit peu de mal à les repérer. Ouais. Cet animal se nourrit exclusivement du sang de ses proies?
Alors, ce sont effectivement des animaux qui sont hématophages, qui se nourrissent exclusivement de sang. Donc, la larve de tique va d'abord faire un premier repas sanguin, qui va lui permettre de se transformer en nymphe, donc une première métamorphose. Cette nymphe va également faire un deuxième repas sanguin pour se transformer en adulte, et la femelle adulte fera un dernier repas sanguin pour produire ses œufs. Alors ce cycle-là peut durer 2 ans, voire 3 ans, ça peut être assez long, donc il y a des longues phases entre les 3 repas, mais la vie d'une tique se résume à ces 3 repas pour faire les 2 métamorphoses.
Le problème sur les animaux, sur l'être humain aussi, c'est que cette tique peut parfois être porteuse de virus et de bactéries.
Voilà, donc la tique, la larve, quand elle fait son premier repas, et normalement, elle peut porter. Pour certaines maladies, il y a des transferts des pathogènes depuis la mère vers les œufs, donc à la larve. Mais dans la plupart des cas, la larve va acquérir le pathogène lors du premier repas. Donc si vous vous promenez sur le terrain et que vous faites mordre, piqué par une larve, il y a peu de chances que vous transmette de pathogènes, parce que normalement elle est indemne. Alors c'est lors du premier repas sur un autre sauvage qu'elle va acquérir ces pathogènes. Et ensuite, au cours du deuxième repas, elle peut les transmettre et également encore en acquérir. Donc c'est à chaque repas que va se faire la contamination de la tique.
Alors il y a un point important, je voulais le préciser au début de l'émission, c'est que toutes les tiques ne transmettent pas évidemment de maladies, ça c'est bien clair. Vous avez fait une étude, il y a eu une thèse qui a été publiée il y a quelques temps. On est à quel pourcentage de tiques qui peuvent transmettre des
cette Alors, bactérie, si, par exemple. Puisqu'aujourd'hui on s'intéresse surtout à la maladie de Lyme, donc qui est causée par une bactérie qui s'appelle le Borrelia. Donc on a regardé effectivement les taux de contamination des tiques en Bretagne par cette Borrelia. On est autour de 5%, en sachant que ce taux-là peut varier au cours du temps. Donc ce n'est pas énorme, c'est moins que dans d'autres régions françaises. On sait que dans l'est de la France, on a des prévalences, donc des taux de contamination des tiques qui sont plus forts. Et on a regardé également, puisque le cycle passe aussi par les autres, par la faune sauvage, on a regardé également les prévalences au niveau des populations de rongeurs dans la nature, donc de plusieurs espèces de petits mammifères. Et là, on est également sur des taux de 4-5%.
La bactérie dont vous parliez à l'instant, la Borrelia, donc peut être transmise à l'homme et provoque ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Deux mots, on dit bien la maladie de Lyme. Hein, on en a parlé en préparant cette émission, mais c'est bien Lyme et c'est pas Lyme, parce que Lyme c'est une ville qui est aux États-Unis, c'est ça ?
Exactement, c'est une petite ville américaine dans l'est des États-Unis, donc où a été décrite la première épidémie. Il y a pas si longtemps que ça, il y a une petite quarantaine d'années.
Voilà. Avant, il y avait déjà des problèmes ou pas ? Ou est-ce que ça date de cette période-là ?
Alors, c'est une bactérie qui est difficile à diagnostiquer. On pourra en reparler tout à l'heure. Elle est aussi difficile à isoler. Donc, probablement qu'elle existait depuis un certain temps, mais qu'elle n'avait pas été reconnue parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de la reconnaître. La maladie devait déjà exister.
On en dit deux mots. Cette maladie, on va en reparler pendant l'émission. De toute façon, avec vos interventions au standard de France Bleu Armorique, évidemment, 02 99 67 35 35. Mais elle se caractérise comment, cette maladie ?
Alors c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle comporte plusieurs stades, un petit peu comme les tiques, avec des diagnostics différentiels à ces différents stades. Ça peut ressembler à des tas d'autres maladies, en fait. Et la phase qui pose le plus de soucis, c'est la phase plus chronique, puisqu'on a des symptômes comme la fatigue, les troubles de concentration, les douleurs, des choses que finalement on peut rencontrer avec beaucoup d'autres maladies. C'est une maladie qui n'est pas rare et qui est potentiellement grave. Et on se pose la question actuellement d'une augmentation du nombre de cas chaque année, même si ce n'est pas encore très bien mesuré, mais on devrait avoir des chiffres plus précis bientôt. La seule bonne chose qu'on peut dire de cette maladie, c'est que finalement la bactérie est restée très sensible aux antibiotiques. Donc quand elle est reconnue et traitée, les gens, en général, s'améliorent. On sait vraiment bien cette maladie-là qu'ils avaient.
Les symptômes, donc vous les donniez, sont les trois mêmes à chaque fois, ou est-ce que certains sont plus en avant sur certains individus ou pas ?
Alors, la phase primaire, c'est très simple en fait. C'est une plaque rouge qui apparaît à l'endroit où la tique a mordu, quelques jours après en général, qui s'étend progressivement et qui peut très bien passer inaperçue parce que les gens ont pas ou très peu de fièvre et ça fait pas mal, ça démange pas. Donc parfois, c'est quelqu'un d'autre qui remarque qu'on a une grosse plaque dans le dos, par exemple, ou derrière les genoux, à l'endroit où la tique s'était fixée. Et cette phase primaire marque finalement l'entrée de la bactérie dans le corps humain. Et après, ça ressemble à d'autres maladies qui après s'installent ailleurs, avec essentiellement en Europe, parce qu'on a une variante un peu différente de celle des États-Unis, des manifestations soit articulaires, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent toucher les grosses articulations, soit neurologiques, et qui peuvent donner des symptômes très, très difficiles à reconnaître, et parfois graves.
02 99 67 35 35, vos appels aujourd'hui concernant les tiques et la maladie de Lyme. Nous accueillons Micheline de Mordel. Bonjour Micheline.
Bonjour, je me permets de vous appeler parce que pour témoigner, mon mari a été atteint de cette maladie de Lyme. Il a consulté immédiatement lorsqu'il s'est aperçu à son mollet de cette plaque rose dont vous faisiez état à l'instant.
Oui.
Et disons, je ne veux pas incriminer le médecin, mais le médecin n'a pas compris ce qu'il en était. Le lendemain, on a été reconsulté parce le médecin avait dit, ben vous passez un désinfectant et vous revenez me voir demain. Le lendemain, j'accompagne mon mari. le médecin regarde ça, évidemment, le rose de la plaie était, s'était dilué. Alors, on en déduit que ça, c'est la maladie, enfin, cette plaque disparaissait, que c'était dans le bon sens. Et puis, à partir de cela, il a eu des problèmes rénaux, des problèmes méningés. Et on a fini quand même par détecter sa maladie de Lyme en lui faisant des prélèvements sanguins. Les laboratoires Mérieux ont été mis en action. Et on lui a fait d'abord du clamoxyl, qui n'a pas été assez énergique en tant qu'antibiotique, puis de la rocéphine. Mais cela, 6 mois après la morsure, parce que en terme médical, je crois qu'on parle d'une morsure. Moralité, il a, à partir de ce moment-là, il a été tout le temps, il a été dans la douleur, aussi bien articulaire, musculaire, rénale, enfin, on a accumulé les soucis.
Voilà, donc il y a eu un problème de diagnostic en fait, et de moment où cette maladie a été repérée. Mais est-ce qu'au niveau médical aujourd'hui il y a une information qui est là ou pas, ou on a l'impression effectivement que pendant quelques années on a un petit peu tâtonné là-dessus. Aujourd'hui on en parle beaucoup, donc tout le monde a l'info. Mais pendant quelques années ça a été un petit peu difficile, sans doute, non?
Oui, effectivement, on a fait partie d'une association des malades de Lyme. C'est ce qui nous a permis quand même d'avoir des renseignements. Et le professeur qui, disons, suit l'affaire d'une façon très précise, c'est le professeur Perron de l'hôpital de Garches, dans la région parisienne, qui s'intéresse pour essayer de trouver un vaccin contre cette maladie.
Non, Micheline, merci pour votre témoignage. Pierre Tadevin, donc on revient sur cette difficulté d'information. C'est vrai que pendant longtemps, les médecins n'étaient peut-être pas assez sensibilisés à tout ça.
Alors, c'est une bactérie qu'on ne connaît pas depuis si longtemps que ça, et c'est vrai que parmi les difficultés qu'on rencontre encore aujourd'hui, on n'a pas du tout résolu, le diagnostic est compliqué. C'est pas une bactérie qu'on peut faire pousser comme les bactéries responsables des infections urinaires en envoyant un prélèvement, par exemple, ou en envoyant un prélèvement sanguin, faire pousser, et puis pouvoir reconnaître la bactérie, tester sa sensibilité aux antibiotiques. C'est techniquement impossible dans le monde actuellement, en 2017. Et donc, on a cette difficulté de devoir se baser sur des tests sérologiques, qui sont jamais parfaits. Hein. Et puis, la réponse aux antibiotiques, pour l'instant, de ce qu'on en sait, la pénicilline continue à fonctionner très bien. C'est une bactérie qui n'est pas touchée par les résistances qu'on voit avec d'autres bactéries. Mais par contre, effectivement, un peu comme dans l'histoire tragique que nous a raconté Micheline, si les traitements sont appliqués tardivement, il peut y avoir eu un développement de symptômes parfois très, très pénibles et éventuellement des conséquences graves.
Le conseil, on le redira sans doute dans cette émission, mais le conseil, c'est, je me tourne vers le biologiste, là, quand on va marcher dans la nature, randonner, etc., faut vérifier à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on peut avoir le risque d'une tique posée sur soi, d'une ou plusieurs. Hein.
Alors déjà, ça dépend à quelle saison. Donc les risques sont maximum au printemps et un peu à l'automne. Au cours de l'hiver, il n'y a aucun risque, puisque là, les tiques sont en diapause. Il faut éviter de marcher dans les fougères, les grandes herbes, parce que la tique est à l'affût hein, pour de ses proies. Et donc, c'est en marchant dans les herbes qu'elle détecte les mouvements et qu'elle se fixe donc sur ses hôtes, dont l'homme. Et il faut, quand on est confronté souvent au milieu naturel, qu'on se promène beaucoup, ou que professionnellement on est forestier par exemple, ou les agriculteurs, il faut s'examiner régulièrement, parce qu'on sait que la transmission des pathogènes se fait au cours du repas, mais il faut un certain temps de fixation de la tique pour que les pathogènes soient transmis, notamment la bactérie, la Borrelia, met un certain temps à être transmise par la tique. Donc si on s'examine régulièrement et qu'on enlève la tique à temps, on a moins de risques d'être contaminé. Après, si on va régulièrement dans la nature, il vaut mieux éviter de remettre les mêmes vêtements, par exemple, parce que la tique peut rester dans les vêtements.
Peut rester dans les vêtements, oui.
Voilà, et se fixer plusieurs jours après. Hein. Donc, il faut être vigilant si on sait qu'on est exposé et regarder ça de près.
Concrètement, elle se met à l'affût où ? Sur le bout des grandes herbes ?
Alors, les larves, au stade larvaire, c'est assez bas dans la végétation, ouais. Puisqu'elles cherchent plutôt des petits mammifères, donc des petits hôtes. Quand elle sera nymphe, elle va monter plus haut dans la végétation, donc à 40-50 cm. Là, elle cherche des proies un peu plus grosses, style lapin, chevreuil, et l'adulte est même souvent un peu plus haut encore dans la végétation. Mais bon, à la taille de l'homme, on peut attraper des larves, des nymphes, moins souvent des adultes quand même, qui sont moins abondantes aussi dans la nature. Hein. Donc, les contaminations, la transmission des pathogènes pour l'homme, c'est essentiellement le stade des nymphes quoi, qui est important. Quoi.
Est-ce qu'il y a des parties du corps, alors de l'animal en général, des êtres humains en particulier, qu'apprécie la tique ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle cherche des zones qui sont un peu plus chaudes que d'autres
ou... Oui, alors elle va d'abord sauter sur sa proie et ensuite elle va se déplacer et elle va se fixer préférentiellement là où la peau est fine, parce qu'il faut quand même transpercer la peau, et plutôt dans des zones humides, parce que c'est aussi un animal qui est très sensible à la dessiccation. Donc, elle va chercher des zones humides. Donc, c'est plutôt les aisselles, le cuir chevelu, enfin, derrière les oreilles, etc. Enfin, bon, toutes les parties du corps peuvent être affectées, mais principalement des zones plutôt humides et où la peau est fine, quand même.
On parle de morsure ou de piqûre, puisqu'on l'évoquait à l'instant.
Alors, on peut dire les deux. Oui. On peut dire les deux, mais il faut plutôt dire piqûre, quand même, parce que les pièces buccales de la tique sont adaptées, justement, à perforer la peau. Donc, il y a une espèce de rostre, et on parle plutôt de piqûre que de morsure. Mais, bon, on peut dire les deux, hein, c'est pas...
02 99 67 35 35 pour vos témoignages. Vous pouvez intervenir également par francebleu.fr et puis par les réseaux sociaux. On a eu des témoignages hein, sur la page Facebook de France Bleu Armorique de personnes qui ont été infectées, qui ont cette maladie de Lyme et qui racontent un petit peu leur parcours. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais on le disait, si c'est pris à temps, effectivement, la médecine arrive aujourd'hui à gérer à peu près l'évolution de cette maladie. Claudine Doray, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, c'est le cas de votre fille qui a...
Ma petite fille. Oui. Ma petite fille, donc, qui un matin s'est réveillée, elle était un peu paralysée du côté gauche. Alors ma fille est tout de suite allée voir son médecin traitant. Et puis, le médecin traitant, quand il a vu Romane, il a dit, bon, allez vite fait à l'hôpital, le CHU de Nantes. Et finalement, ils ont fait tout de suite la prise de sang, ils ont détecté la maladie de Lyme. Et donc, quand même, Romane a été paralysée pendant 15 jours, un peu du côté gauche. Elle avait l'œil qui ne se fermait pas la nuit. Et elle avait la bouche qui était quand même déformée. Mais bon, ça s'est super bien passé. Ils ont fait tout de suite tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu de problème après.
Mais aujourd'hui, tout va bien, quoi.
Ah, tout va bien. Oui, 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 oui. Donc, mais aussitôt qu'ils ont vu Romane, ils se sont dit, il faut faire la prise de sang. Ça, c'est pas normal. Donc, et ça s'est très, très bien passé, hein.
Alors Pierre Tadevin, ce témoignage de Claudine, ça rejoint à ce que vous nous disiez. Donc si on traite à temps, si on s'aperçoit très rapidement, on peut très bien intervenir et très facilement intervenir.
Oui, merci Claudine pour ce témoignage, parce que c'est vrai que c'est important aussi de rappeler ces histoires de maladie de Lyme qui se passent bien. Là, effectivement, votre petite fille devait avoir ce qu'on appelle la paralysie faciale, qui est liée effectivement à la maladie de Lyme et qui normalement régresse totalement quand elle est reconnue et traitée à temps avec les bons antibiotiques.
Claudine, aujourd'hui, quand vous allez vous promener avec votre fille, vous vérifiez à chaque fois au retour pour vous, pour elle et pour ceux qui vous accompagnent ?
Non, mais en plus, quand vous n'étiez pas avec nous quand elle a eu ce problème, parce qu'ils étaient partis avec des parents dans le Cantal, et comme dit ma fille, mais jamais j'ai vu un truc rouge, enfin ils ont expliqué ce que c'était, jamais ils n'ont vu un moindre problème. Donc c'est ça aussi, c'est je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'il était piqué, où est-ce que Romane a été piqué, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais bon, elle l'a eu, et puis, ma foi, ça s'est très bien passé.
On a systématiquement, Pierre Tadevin, cette réaction au niveau de la peau ou pas ?
Alors, comme on fait souvent les diagnostics plus tard, oui, on ne peut pas savoir si la plaque était là et qu'elle est passée inaperçue, ou bien si ce stade-là n'est même pas survenu. Mais on peut imaginer effectivement que si la tique s'est fixée au niveau de l'aisselle, par exemple, et qu'il y a une plaque rose pendant quelques jours, qu'elle soit passée inaperçue.
Claudine, merci pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne journée à Auray. On accueille Michel de Saint-Marc-sur-Couesnon. Bonjour.
Oui, bonjour messieurs. Oui, alors moi je vous explique, j'ai été piqué par une tique.
Oui.
Au niveau du nombril. Par contre, je n'ai jamais eu de plaque non plus. Hein.
D'accord.
Mais depuis, Ça a commencé par de l'urticaire au départ. Je faisais de l'urticaire et bon, ça continue comme ça. Je fais de l'urticaire. Et par contre, avec des, comment, comme des symptômes grippaux, si vous voulez, fièvre, entre 38 et 39 pendant environ 3-4 jours. Et des maux de tête atroces, l'impression d'avoir le cœur qui est rendu au sommet. Mmh. Et puis, douleur articulaire. L'avant-dernière fois, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon, tellement j'avais mal partout, quoi.
D'accord. Au niveau du médecin, votre médecin vous dit quoi là-dessus?
Alors, le médecin, bah, il a fait une première analyse, c'est négatif. Il a été, après, j'ai vu une dermato, où ils ont fait une deuxième analyse, c'est toujours négatif. Donc, c'est moi qui lui ai dit que j'avais été piqué par une tique, quoi, et que comme j'avais m'étais documenté un petit peu sur la maladie, ça correspondait un petit peu aux symptômes, si vous voulez. Hein. Parfois,
oui,
j'ai mal à la gorge également. Et pour l'instant, ben, je suis dans l'attente. Hein. Ça continue toujours avec pratiquement tous les mois cette poussée d'urticaire et ensuite les symptômes qui reviennent tout le temps, comme ça.
Et Pierre Tadevin, aujourd'hui, donc pour repérer cette bactérie et les dégâts, on est très précis dans les analyses ou est-ce qu'il y a quand même des tâtonnements et des difficultés, quoi?
Alors, c'est vrai que le diagnostic ne peut être fait que par les sérologies, comme on n'arrive pas à la mettre directement en évidence. Mais il y a des tests qui sont validés maintenant avec un centre national de référence qui est localisé à Strasbourg, puisque c'est une des zones chaudes de la maladie en France, qui travaille vraiment très d'arrache-pied depuis plus de 10 ans. On peut penser qu'il doit rester quelques maladies de Lyme qui passent à travers ces tests, mais c'est vraiment une grande minorité. Et ce témoignage, je pense, fait insister sur un point, c'est que parfois, même si on a été piqué par une tique et qu'on a des symptômes qui ressemblent à la maladie de Lyme, il reste possible que ce soit autre chose. Donc il faut vraiment ne pas trop... Il faut bien sûr penser à la maladie de Lyme, faire les tests. Si c'est négatif, la probabilité que ce soit ça reste très faible. Et on a beaucoup de témoignages de collègues d'autres villes de France ou même d'autres pays où on a retardé le diagnostic d'autres problèmes parce qu'on s'était focalisé sur la maladie de Lyme. Donc, il y a une toute petite probabilité que ce soit quand même une maladie de Lyme et on est parfois amené à proposer un traitement antibiotique de 3 semaines. Comme c'est recommandé pour les phases tertiaires de la maladie de Lyme, en se disant on est peut-être dans cette toute petite probabilité. Mais le plus important, en termes de fréquence, c'est de chercher autre chose et de ne pas passer à côté d'une autre maladie qui serait traitable avec d'autres traitements. Et l'autre point, c'est que les tiques peuvent transmettre autre chose que la maladie de Lyme. On n'a pas eu le temps de le dire, mais il y a d'autres pathogènes hein, qui donnent aussi des maladies, comme l'anaplasmose. Dans l'ouest de la France, on n'a pas ça, mais dans l'est de la France, ils ont des virus qui donnent des encéphalites ou des maladies plus sérieuses. Donc, je crois que c'est vraiment important de faire, dans ces cas-là, des examens complémentaires et d'autres hypothèses.
Et puis, comme les médias, on va faire de l'autocritique, là, mais c'est vrai, comme on en parle beaucoup depuis quelques mois ou quelques années, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu tendance à focaliser là-dessus et à faire que les personnes qui ont des problèmes de santé imaginent forcément que c'est cette maladie-là, quoi.
Oui. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas négliger cette maladie, mais il ne faut pas non plus lui mettre tout sur le dos. Il y a d'autres maladies qui existent et qui nécessitent d'autres traitements.
02 99 67 35 35 pour vos appels ce matin. Vous pouvez intervenir également par francebleu.fr et par les réseaux sociaux.
Vous avez une question? Nos experts ont la réponse.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir. même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Il est un espoir, un enfant de soupir, où l'eau mêle nos mystères.
Sur France Bleu Armorique, c'était l'autre Finistère.
Les experts de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Les experts, on parle aujourd'hui des tiques et de la maladie de Lyme avec Alain Butet qui est biologiste à l'université de Rennes 1, laboratoire Ecobio, c'est bien ça, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, et Pierre Tatouin qui est infectiologue à Pontchaillou au CHU de Rennes. Vos questions, c'est évidemment au standard de France Bleu Armorique. On parle de cet animal donc qui transmet la bactérie responsable de la maladie de Lyme, mais c'est pas la seule transmission dont il peut être responsable. Il peut transmettre des virus, etc.
Oui, les tiques sont susceptibles de transmettre beaucoup de pathogènes, des virus, des bactéries, des protozoaires, etc. Et il peut y avoir effectivement des phénomènes de co-infection lors d'une piqûre.
D'accord, pas une seule bactérie, il peut aussi ramener son virus.
Voilà, et puis, tout à fait. Mmh. Et les bactéries également, pour la maladie de Lyme par exemple, on détecte plusieurs souches, et donc la pathogénicité de ces souches peut être variable également.
Mmh. Vous avez noté, vous, combien de souches
Alors nous, sur les tiques en Bretagne, on a trouvé 5 souches différentes présentes de Borrelia dans les tiques.
Et à chaque fois, on a, je m'adresse à l'infectiologue, on a à chaque fois des symptômes différents, des réactions différentes ou pas?
Alors le groupe des borrélioses, en tout cas, donne des symptômes assez proches, mais avec quand même des différences significatives. Il y a par exemple plus de manifestations neurologiques avec la maladie de Lyme européenne, et plus de manifestations articulaires avec la maladie de Lyme américaine. Donc il y a des petites différences, mais avec un cadre qui reste assez similaire. Par contre, parmi les autres pathogènes, c'est vrai que ça peut donner des choses très différentes.
Mmh. 02 99 67 35 35, on accueille Bernard de Château-Giron, bonjour.
Bonjour, bonne année à tous.
Oui, bonne année à vous.
Félicitations pour vos émissions.
Merci. Bernard, vous, c'était pour un témoignage que vous nous appeliez?
Oui. En 69 à peu près, parce que je commence à vieillir, je ne sais plus exactement à quel moment j'ai été piqué, lors d'un feu d'artifice dans le sud de la France, Dans un champ, j'ai été piqué par une tique ou un tic, et donc bon, une infection qui a été juste nettoyée, désinfectée à ce moment-là, et sans conséquences immédiates. Quelques années après, quelques douleurs articulaires et qui se sont révélées importantes. À 40 ans, on commençait déjà à me triturer à l'hôpital Cochin pour des nécroses dans les hanches. Aujourd'hui, j'ai 5 prothèses, 2 hanches, 2 genoux, 1 cheville. Toutes mes articulations sont vraiment abîmées. La 6e prothèse se profile sur la prochaine cheville. Voilà, et personne n'a détecté à l'époque, j'ai 63 ans, hein, donc personne à l'époque n'avait détecté ce type de maladie. Est-ce ça, n'est-ce pas ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'examen dans ce sens.
Voilà, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, je m'adresse au professeur Tadevin, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des analyses sur Bernard pour savoir s'il est porteur de cette bactérie ou pas?
Alors, déjà, on peut... C'est vrai qu'en 69, ils ne pouvaient pas penser à cette maladie parce qu'elle n'avait pas été découverte. Ça a été découvert environ 10 ans plus tard, donc on ne peut pas trop revenir sur ce qui n'a pas été retrouvé au départ, si c'était bien ça. Là, maintenant, avec ça fait 50 ans de recul par rapport à la piqûre, vous pourriez juste avoir une trace sérologique de la maladie de Lyme avec une sérologie positive, sachant que si vous avez eu l'occasion de prendre des antibiotiques au cours des 50 dernières années, même pour d'autres raisons, vu la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, il y a de fortes chances qu'elle soit plus là. Et dernier point, c'est vrai que les manifestations articulaires de la maladie de Lyme, ça peut être sévère, mais en général, c'est une seule articulation. Donc, votre tableau paraît vraiment étonnant. Ça ne ressemble pas beaucoup. Maintenant, je pense que si un jour vous faites une prise de sang, vous pouvez demander la sérologie, vous serez sans doute rassuré.
Merci Bernard pour ce témoignage. On vous souhaite une bonne journée à Châteaugiron. On va accueillir Céline de Bourbarré. Bonjour Céline.
Oui, bonjour.
Alors vous avez la maladie qui a été diagnostiquée il y a 2 ans, c'est ça?
Alors, j'ai été diagnostiquée en novembre 2015, oui, après 18 mois d'errance médicale, puisque mes premiers symptômes sont apparus début 2014. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui a diagnostiqué cette maladie et qui m'a traitée. Je suis toujours sous traitement pour cette maladie, qui a en fait des symptômes neurologiques.
D'accord. Le traitement peut durer combien de temps, Pierre Tadevin? Ça, on ne sait pas du tout, ça dépend des individus et de la réaction de la maladie.
Alors, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a des données très contradictoires. Il y a d'un côté, comme on fait en médecine, des essais où ils ont comparé différentes durées de traitement sur des nombres importants de patients. Et cette partie-là, qui est publiée dans les grandes revues médicales, montre que au-delà de 3 semaines, on n'a pas de bénéfice. Même pour les formes neurologiques ou les formes articulaires, 3 semaines de traitement, on obtient le maximum de l'efficacité. Ça a été comparé à des gens qui ont pris 3 mois, par exemple, avec un groupe qui prenait un placebo, l'autre groupe qui prenait des antibiotiques. D'accord. Et au bout des 3 mois, les symptômes étaient de la même intensité dans les deux groupes. Donc il n'y a pas de raison solide de donner plus que 3 semaines. Et l'autre critère qui va plutôt contre l'intérêt de donner plus que 3 semaines, c'est que les gens qui prennent plusieurs années d'antibiotiques, et il y en a, puisqu'il y a certains médecins qui restent convaincus qu'il faut faire ça, continuent à les prendre même 5 ans plus tard parce qu'ils disent qu'ils en ont besoin, que ce qui n'est pas du tout logique avec des antibiotiques. Normalement, ça tue la bactérie et on n'a pas besoin d'en prendre pendant 10 ans. Donc les recommandations, c'est vraiment de s'arrêter à 3 semaines, d'autant que la plupart des gens qui prennent plusieurs années n'ont pas un bénéfice. Et tous les effets indésirables des antibiotiques dont on sait qu'il faut les préserver pour pouvoir garder leur efficacité pour les autres infections.
Merci Céline pour ce témoignage. Céline qui habitait à Bourbarré. Le dernier témoignage pour nous, c'est celui de Yves de Saint-Malo. Bonjour Yves.
Oui, bonjour. Je vous souhaite une bonne année à tous.
Bonne année à vous également.
Mon témoignage est un petit peu différent, en ce sens que moi également et mon épouse, nous avons donc été piqués par des tiques. Notre médecin a bien réagi à l'époque et nous a fait un test qui s'est révélé négatif et nous a prescrit donc 3 semaines d'antibiotiques. Donc apparemment tout s'est bien passé. Moi ce qui m'interpelle, c'est la prolifération de la tique. En ce sens que lorsque j'étais gamin avec mes camarades, nous allions jouer dans les champs, dans les prés, dans les bois et dans les landes, nous n'avons jamais été piqués par les tiques. On a l'impression maintenant que la tique prolifère. Alors est-ce que je me trompe ou pas? Avec tout ce qu'on entend, on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup partout maintenant de la tique.
Bon, Alain Buté, vous êtes biologiste, est-ce qu'il y a de la tique partout alors aujourd'hui ou pas?
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas vraiment de recul là-dessus. On n'a pas d'études anciennes pour savoir quelle était la densité de tique par le passé. Effectivement, il semble qu'il y a eu une émergence de l'abondance des tiques. Les facteurs à invoquer, on les connaît pas bien. Bon, le changement climatique peut être en cause, l'évolution des paysages, etc. Mais il y a aussi des changements dans la faune sauvage. L'intensification de l'élevage a permis aussi de disposer d'un nombre d'animaux domestiques, donc d'une ressource importante,
un garde-manger
pour les tiques. Donc ça peut être une des causes. Après, il y a plein d'autres facteurs. Peut-être aussi que les citoyens ont une relation à la nature qui a évolué. On se promène peut-être plus, etc. On va aux champignons, etc. Donc c'est difficile à dire. On n'a pas de données objectives pour dire que il y a beaucoup plus de tiques aujourd'hui que par le passé. Mais effectivement, on constate que les gens sont peut-être plus attaqués. Donc c'est peut-être un fait, oui.
Merci Yves pour ce témoignage et cette question, Yves de Saint-Malo. Je voulais qu'on dise deux mots aussi du plan qui est en place, plan de recherche qui a été lancé pour en savoir davantage sur ces animaux et puis sur la maladie aussi. Hein. Qui veut intervenir, Pierre Tadevin?
Moi, je peux juste dire un petit mot. Effectivement, les pouvoirs publics ont pris la mesure de toute l'importance de ce problème pour les patients. Et des questions posées, comme celle qu'on vient d'entendre, qui est effectivement une question très importante à laquelle on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est émergent ou est-ce que c'est juste mieux reconnu? Il va y avoir beaucoup de programmes, à la fois de recherche, mais aussi d'essayer de mieux définir la prise en charge des patients, qui vont être lancés dans les mois qui viennent avec un financement dédié. Ça a été annoncé au mois de septembre l'année dernière. Donc on peut espérer faire des progrès.
Bon, et puis si on souhaite en savoir plus, moi je vous renvoie vers le rendez-vous de l'Espace des Sciences aussi en fin de journée aujourd'hui. Le Café des Sciences à l'Espace Magenta au Champ Libre à Rennes, organisé avec l'Espace des Sciences. Et ce sera avec vous Alain Buté, avec vous Pierre Tadevin et puis avec Grégoire Pérez, on n'en a pas parlé, mais qui est biologiste aussi et qui a réalisé la thèse.
Il a réalisé sa thèse avec moi, effectivement.
Voilà, donc il sera présent ce soir 18h30 au Café de l'Espace des Sciences, c'est au Champ Libre à Rennes. Je vous invite tous à y aller, il y aura de la place, hein, ne vous inquiétez pas, et ce sera sans doute un rendez-vous passionnant. Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui.
Merci.
Bonne journée et à bientôt.
Les experts de France Bleu Armorique, à réécouter sur francebleu.fr. France Bleu. Attention, tout à l'heure, dès 11h, le grand magicien breton Gérard Souchet sera sur France Bleu Armorique dans le jeu Microsondes pour nous-mêmes. Jouez et gagnez vos passes famille pour le Festival International de Magie à Rennes le samedi 14 février en VIP. Microsondes, c'est à 11h.
France Bleu, partenaire du dossier spécial de Pèlerin. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Profiter du quotidien ou faire une belle carrière, bien gagner sa vie ou réussir sa vie de famille. Un sondage exclusif, des reportages et témoignages. Un dossier spécial de Pèlerin à découvrir ce soir à 20h dans On se dit tout avec Vanessa Lambert.
Le Kiox de France Bleu Armorique, on va quitter l'éthique et on va s'intéresser à la culture tout de suite avec un concert qui nous sera proposé le 13 janvier prochain, vendredi 13 janvier, c'est à la Nouvelle Vague de Saint-Malo, c'est un concert de Benjamin Biolay. Alors je vous le dis comme ça, mais c'est son anniversaire juste une semaine après, donc on pourrait peut-être lui nous souhaiter en amont lorsqu'il sera à la Nouvelle Vague de Saint-Malo. On a deux places pour vous pour ce concert de Benjamin Biolay, ça se passe tout de suite au standard de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Le kiosque, vous appelez et c'est gagné.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Amy Winehouse sur France Bleu Armorique. Et Marie Bernadette, tout de suite sur France Bleu Armorique aussi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous habitez à Passé?
Oui, voilà, j'habite Passé.
Vous êtes prête à faire le trajet jusqu'à Saint-Malo pour aller voir Benjamin Biolay?
Voilà.
C'est un artiste que vous appréciez?
Voilà, c'est un artiste que j'apprécie, effectivement.
Bon, bah vous allez le retrouver à la Nouvelle Vague le vendredi 13 janvier. Ce sera à partir de 21h. Vous connaissez bien ses albums ou... Oui.
Un petit peu. J'aime bien sa voix.
Bon, ben voilà, ben vous aurez le plaisir, là, sans doute, de voir un petit peu tout ce qu'il peut faire, toute sa carrière, parce que c'est vrai que sur scène, les artistes parlent de leur dernier album, chantent leur dernier album, mais pas seulement, ils reviennent aussi sur quelques titres antérieurs, et ça peut toujours être intéressant.
Très bien, je vous remercie beaucoup.
Bon, Marie Bernadette, il y a deux places pour ce concert. Est-ce qu'on peut vous demander avec qui vous allez aller au concert?
Je pense aller avec une amie.
D'accord. Très bien. Bon, ben, si vous avez des amis, elles vont toutes vous appeler. Là. Ça, c'est moi. Il va falloir décider.
Oui, c'est vrai.
Marie Bernadette, je vous remercie de nous avoir appelés.
Merci, c'est chez moi.
Vous ne quittez pas, vous allez retrouver Jessica qui est à l'accueil et qui a quelques informations à vous donner.
Très bien, à très
bientôt. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Tête de lard, oui, tête de con, hommes et femmes, ouvrières et corsaires, de l'âge du fer à la semaine dernière, ils ont fait l'histoire de notre pays.
Alors, tous les jours de l'année, à 6h10, 11h40, 17h45, Ronan Manuel nous raconte ses sacrées têtes de Breton.
Jean Brito,
Jeanne Jugand, Ernest Renan,
Dominoé,
Irène Fin, Jérôme Albert Poulain, de
Alain
la Bollardière, Véfa de Saint-Pierre,
François Luzel. Retrouvez les sacrées têtes de Breton sur France Bleu Armorique et francebleu.fr.
France Bleu Armorique vous souhaite une bonne année.
Bonjour, je suis Véronique Brett.
Bonjour, je suis Sébastien Gallo.
Nous sommes les agents
Véro Seb. Notre mission, vous souhaitez une excellente année 2017.
Que vos vœux se réalisent et surtout...
Oui, surtout la santé.
C'est important, la santé.
Bonne année.
Sur France 3, soyez aux premières loges de Fauteuil d'Orchestre. Renaud Capuçon est l'invité d'Anne Sinclair.
Être musicien, c'est une grâce de chaque jour.
Violoniste et concertiste de talent, il accompagne les virtuoses d'aujourd'hui et les prodiges de demain pour un spectacle musical d'exception. Fauteuil d'Orchestre, demain à 20h55.
France 3, vous êtes au bon endroit.
Tout l'esprit de la Bretagne, sur France Bleu Armorique.
Deux belles têtes d'endive avec vous tout à l'heure dans l'émission de cuisine, puisque c'est ce qu'on va cuisiner, l'endive. Donc, préparez vos recettes, hein, 02 99 67 35 35. It was upstairs, downstairs, the lady went.